Chapitre 8. Le mariage. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, Harry, Ron, Fred et George, rassemblés à côté du grand chapiteau blanc dressé dans le verger, attendaient l'arrivée des invités. Après avoir pris une bonne dose de polynectar, Harry était devenu à présent le sosie d'un jeune moldu aux cheveux roux qui habitait le village voisin de Loutry-Saint-Chaspoul. Fred s'était chargé de lui voler quelques cheveux à l'aide d'un sortilège d'attraction. Le plan consistait à présenter Harry comme le cousin Barney. La famille Wesley était tellement étendue qu'il passerait inaperçu. Tous les quatre avaient à la main la liste des invités et des sièges qui leur étaient réservés afin qu'ils puissent amener chacun à sa place. Une foule de serveurs en robe blanche était arrivée une heure plus tôt, en même temps que des musiciens en veste dorée. Pour l'instant, ils s'étaient tous assis un peu plus loin sous un arbre, et Harry voyait un nuage bleuâtre de fumée de pipe s'élever de leur groupe. Derrière Harry, l'entrée du chapiteau laissait voir d'innombrables rangées de chaises dorées, élégantes et fragiles, disposées de chaque côté d'un long tapis pourpre. Les mâts, qui soutenaient la toile, étaient entourés de guirlandes de fleurs blanc et or entrelacées. Fred et George avaient attaché une énorme gerbe de ballons dorés au-dessus de l'endroit précis où Bill et Fleur deviendraient bientôt mari et femme. Au dehors, des papillons et des abeilles voltaient paresseusement sur la pelouse et sur les haies. Harry, lui, n'était pas très à son aise. Le moldu, dont il avait pris l'apparence, était légèrement plus gros que lui et sa robe de soirée, devenue trop serrée, lui donnait chaud sous le plein soleil de cette journée d'été. « Quand je me marierai, » dit Fred en tirant sur le col de sa propre robe, « je ne m'encombrerai pas de toutes ces idioties. Vous pourrez vous habiller comme vous voudrez et je ferai subir à maman le maléfice du saucisson jusqu'à ce que tout soit terminé. Ah, »« Finalement, elle n'a pas été trop terrible ce matin, » dit George. « Elle a un peu pleuré parce que Percy ne sera pas là, mais qui a envie de le voir ?»« Oh, nom d'une baguette, préparez-vous, les voilà, regardez !» Des silhouettes aux couleurs vives apparaissaient une par une, surgies de nulle part, derrière la lointaine clôture de la cour. En quelques minutes, une procession s'était formée qui s'avança en serpentant à travers le jardin en direction du chapiteau. Des fleurs exotiques et des oiseaux ensorcelés frétillaient sur les chapeaux des sorcières, tandis que des pierres précieuses étincelaient sur les foulards des sorciers. On entendait s'élever de plus en plus sonore la rumeur joyeuse des conversations qui noyait le bourdonnement des abeilles à mesure que la foule s'approchait. « Très bien, il me semble apercevoir quelques cousines vélanes, » dit George en tendant le cou pour mieux voir. « Elles auront besoin d'aide pour comprendre les coutumes anglaises. Je vais m'occuper d'elles. »«
Hop, 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 pas si vite, l'oreille coupée, » répliqua Fred.
Il se précipita, passa en trompe devant le groupe de sorcières d'âge mûr qui menait la procession et s'approcha de deux jolies françaises.
Permettez-moi, tout assiste-vous, hein, dit-il dans un français approximatif.
Les deux jeunes filles gloussèrent et acceptèrent de se laisser entraîner par lui à l'intérieur du chapiteau. George dut s'occuper des sorcières d'âge mûr et Ron prit en charge un vieux collègue de M. Wesley du nom de Perkins pendant que Harry héritait d'un couple âgé et un peu sourd.
« Salut !»
lança une voix familière quand il ressortit du chapiteau. Il tomba sur Tonk et Lupin qui étaient les premiers de la file d'attente. Tonk s'était coloré en blonde pour l'occasion.
« Arthur nous a dit que tu étais celui avec les cheveux bouclés. » « Désolée pour hier soir, »
ajouta-t-elle dans un murmure lorsque Harry les conduisit à leur place.
« Le ministre est très anti-loup-garou en ce moment et nous avons pensé que notre présence ne te rendrait pas service. »«
Bien sûr, je comprends, » répondit Harry, qui parlait plus à Lupin qu'à Tonk.
Lupin lui adressa un bref sourire, mais quand il s'éloigna pour aller s'installer, Harry vit ses traits s'affaisser à nouveau dans une expression de profonde tristesse. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il n'eut pas le temps de s'attarder sur le sujet car Hagrid était en train de provoquer un certain désordre. Ayant mal compris les instructions de Fred, il s'était assis non pas sur le siège magique agrandi et renforcé qu'on avait prévu pour lui au dernier rang, mais sur 5 chaises qui ressemblaient à présent à un gros tas d'allumettes dorées. Tandis que M. Wesley réparait les dégâts et que Hagrid se répandait en excuses auprès de qui voulait l'entendre, Harry se hâta de retourner à l'entrée du chapiteau où il trouva Ron face à face avec un sorcier à l'apparence singulière. Louchant légèrement, ses cheveux blancs semblables à de la barbe à papa lui tombant sur les épaules, il portait une casquette avec un pompon qui pendait devant son nez et une robe d'une couleur jaune d'œuf si vive qu'on en avait les larmes aux yeux. Un étrange symbole semblable à un œil triangulaire luisait au bout d'une chaîne d'or autour de son cou.
« Xenophilius Lovegood !» dit-il en tendant la main à Harry. « Ma fille et moi-même habitons de l'autre côté de la colline. C'est si gentil de la part de ces bons vieux Wesley de nous avoir invités. Mais je crois que vous connaissez déjà ma petite Luna » ajouta-t-il à l'adresse de Ron.
« Oui, oui, » répondit celui-ci. « Elle n'est pas avec vous ?»«
Elle s'est attardée dans ce charmant petit jardin pour dire bonjour aux gnomes. Leur invasion est une bénédiction. » Combien sont rares les sorciers qui se rendent compte de tout ce qu'on peut apprendre grâce à ces petits gnomes pleins de sagesse. Ou plutôt, pour leur donner leur vrai nom, des Gernambli Jardinzi.
Les nôtres connaissent d'excellents jurons, dit Ron. Mais je crois que ce sont Fred et George qui le leur ont appris.
Pendant qu'ils conduisaient un groupe de sorciers sous le chapiteau, Luna accourut.
Bonjour Harry,
lança-t-elle.
« Je m'appelle Barney, » répondit Harry désarçonné.
« Ah bon, ça aussi, tu l'as changé ?»
demanda-t-elle d'une voix joyeuse.
« Et comment sais-tu que... »«
Oh, c'est simplement ton expression, »
répondit-elle. Comme son père, Luna portait une robe jaune vif qu'elle avait accompagnée d'un grand tournesol fixé dans ses cheveux. Une fois habituée à l'éclat aveuglant de l'ensemble, l'effet général était plutôt agréable. Au moins, il n'y avait pas de radis accroché à ses oreilles. Xenophilius, qui était en grande conversation avec une de ses connaissances, n'avait pas entendu l'échange entre Luna et Harry. Prenant congé du sorcier, il se tourna vers sa fille, qui leva alors un doigt devant elle et dit
« Regarde, papa, un des gnomes m'a mordu. »
« C'est merveilleux! La salive de gnome a des propriétés extraordinairement bénéfiques !»
assura M. Lovegood en prenant le doigt tendu de Luna pour examiner les traces de dents ensanglantées.
« Luna, ma chérie, si aujourd'hui tu sens un nouveau talent naître en toi, par exemple une irrésistible envie de chanter des airs d'opéra ou de déclamer des poèmes en langue aquatique, surtout ne le réprime pas, hein ? Tu as peut-être reçu un don de Gernambli. »
Ron, qui allait dans la direction opposée, laissa échapper un ricanement sonore en les croisant.
« Ron peut bien rire, »
dit Luna d'un air serein, tandis que Harry les amenait à leur place, elle et Xenophilius.
« Mais mon père a fait beaucoup de recherches sur la magie des Gernambli. »«
Vraiment ?» répondit Harry, qui avait décidé depuis longtemps de ne jamais contester les vues un peu particulières de Luna ou de son père.
« Mais tu ne crois pas que tu devrais quand même mettre quelque chose sur cette morsure ?»«
Oh non, non, c'est très bien comme ça, »
assura Luna. Suçant son doigt d'un air rêveur, elle regarda Harry des pieds à la tête.
Tu es très élégant. J'avais dit à papa que la plupart des invités auraient sans doute des robes de soirée, mais ils pensent que dans les mariages, il faut s'habiller avec des couleurs solaires pour porter bonheur. Tu comprends ?
Elle suivit son père d'un pas nonchalant pendant que Ron réapparaissait avec une vieille sorcière accrochée à son bras. Son nez, en forme de bec, ses yeux bordés de rouge et son chapeau à plumes roses, lui donnaient l'air d'un flamand grincheux.
« Ah, et tes cheveux sont beaucoup trop longs, Ronald! Au début, je t'ai pris pour ta sœur Ginevra! Oh, par la barbe de Merlin, comment Xenophilius Lovegood s'est-il accoutré? Oh, on dirait une omelette! Et vous, hein, qui êtes-vous? »
aboya-t-elle à l'adresse de Harry.
Ah oui, tante Muriel, voici notre cousin Barney.
Ah, un autre Wesley. Oh, non. Oh, ma parole, vous vous reproduisez comme des gnomes. Harry Potter n'est pas là. J'espérais le rencontrer, mais je croyais que c'était un de tes amis, Ronald. À moins que tu ne te sois vanté.
Non, il n'est pas là. Il n'a pas pu venir.
Il a trouvé une excuse, hein? Non. Il n'est donc pas si niais qu'il en a l'air sur ses photos. Non. Je viens d'expliquer à la mariée comment il convient de porter ma tiare, cria-t-elle à Harry. Elle a été fabriquée par des gobelins, figurez-vous. Et ça fait des siècles qu'elle est dans ma famille. C'est une jolie fille, mais il n'empêche qu'elle est française, hein? Voyons. Non. Trouvez-moi un bon siège, Ronald. J'ai 107 ans. Il ne faut pas que je reste debout trop longtemps. Non.
Ron passa devant Harry en lui lançant un regard éloquent et ne se montra plus pendant un certain temps. Lorsqu'ils se croisèrent à nouveau à l'entrée, Harry avait conduit une douzaine d'autres personnes à leur place. Le chapiteau était maintenant presque plein et pour la première fois, il n'y avait plus de file d'attente au dehors.
Un vrai cauchemar, cette tante Muriel, dit Ron, qui s'épongea le front avec sa manche. Elle venait chaque année à Noël, et puis heureusement, elle s'est fâchée parce que Fred et George ont fait éclater une bombe à bouse sous sa chaise pendant le réveillon. Papa dit toujours qu'elle a dû les rayer de son testament, comme s'ils en avaient quelque chose à faire. Ils vont devenir les plus riches de la famille au rythme où ça va.
Waouh ! Ajouta-t-il avec des battements de paupières précipités en voyant Hermione s'approcher d'eux à grands pas.
« What ? Tu es superbe !»«
Ça te surprend toujours, on dirait, »
répliqua Hermione qui ne put s'empêcher de sourire. Elle était vêtue d'une robe fluide couleur lilas et portait des chaussures à talons hauts assortis. Ses cheveux étaient lisses et brillants.
« Ta grand-tante Muriel n'est pas d'accord avec toi. Je l'ai rencontrée là-haut pendant qu'elle donnait sa tiare à Fleur. » Elle a dit « Oh mon Dieu, c'est celle qui est née moldue !» Et tout de suite après, « Mauvais maintien et cheville trop maigre !»«
Oh, ne te prends pas mal, elle est odieuse avec tout le monde !» répondit Ron.
« Vous parlez de Muriel ?» demanda George, qui émergeait du chapiteau en compagnie de Fred. « Elle vient de me faire remarquer que mes oreilles ne sont pas symétriques. Quelle vieille toupie ! En revanche, j'aurais bien voulu que l'oncle Milius soit encore parmi nous. On rigolait bien avec lui au mariage. »
« Ce ne serait pas celui qui est mort 24 heures après avoir vu un sinistros ?» interrogea Hermione.
« Ah oui, il faut dire qu'il était un peu bizarre, vers la fin, » admit George.
« Mais avant qu'il devienne dingue, c'était un vrai bout en train, » dit Fred. « Il vidait toute une bouteille de whisky pur feu, » puis se précipitait sur la piste de danse, soulevait sa robe et faisait sortir des bouquets de fleurs de son...
Un vrai charmeur,
coupa Hermione, tandis que Harry éclatait d'un grand rire.
Il ne s'est jamais marié. Je ne sais pas pourquoi, ajouta Ron.
Tu m'étonnes, répliqua Hermione. Il riait tellement qu'aucun d'eux ne remarqua le dernier arrivé, un jeune homme aux cheveux bruns, avec un grand nez arrondi et d'épais sourcils noirs, jusqu'à ce qu'il tende son invitation à Ron et dise à Hermione, les yeux fixés sur elle,
« Tu es merveilleuse !»«
Victor !»
s'écria-t-elle d'une voix perçante. Elle lâcha son petit sac en perles qui tomba sur le sol avec un grand bruit sourd, disproportionné à sa taille. Les joues en feu, elle se précipita pour le ramasser.
« Je savais pas que tu... » balbutia-t-elle. « Mon Dieu, mais c'est formidable de te voir. Comment tu vas ?»
Une fois de plus, les oreilles de Ron étaient devenues rouges vifs. Après avoir jeté un coup d'œil à l'invitation de Crumb, comme s'il ne croyait pas un mot de ce qui y était écrit, il lança d'une voix beaucoup trop forte.
« Comment fait-il que tu sois là ?»«
Fleur m'a invité, »
répondit-il, les sourcils levés. Harry, qui n'avait rien contre Crumb, lui serra la main, puis sentant qu'il valait mieux l'éloigner de Ron, il lui proposa de le conduire à sa place.
« Ton ami n'est pas content de me voir, »
dit Crumb lorsqu'ils pénétrèrent sur le chapiteau après embondé.
« Oh, peut-être es-tu de la famille ?»
ajouta-t-il en jetant un coup d'œil aux cheveux roux et bouclés de Harry.
Oh, « Un cousin, » marmonna Harry, mais Crumb ne l'écoutait pas vraiment.
Son apparition fit sensation, surtout parmi les Vélanes. Après tout, c'était un célèbre joueur de Quidditch. Alors que les invités continuaient de tendre le cou pour mieux le voir, Ron, Hermione, Fred et George accoururent le long de l'allée centrale.
« Il est temps de s'asseoir !» dit Fred à Harry. « Si on reste dans le chemin, on va se faire écraser par la mariée !»
Harry, Ron et Hermione allèrent prendre leur place au deuxième rang, derrière Fred et George. Hermione avait le teint d'un rose soutenu et les oreilles de Ron étaient toujours écarlates.
Au bout d'un moment, il se pencha vers Harry et marmonna.
Tu as vu cette stupide petite barbe qui s'est fait pousser ?
Harry répondit d'un grognement neutre. Une atmosphère d'attente fébrile se répandait dans la chaleur du chapiteau. Le brouhaha des conversations interrompu de temps à autre par des éclats de rire surexcités. Monsieur et Mrs. Weasley remontèrent l'allée centrale d'un pas tranquille, souriant et adressant des signes de la main à des membres de la famille. Mrs. Weasley portait une robe toute neuve, couleur d'améthyste, et un chapeau assorti. Un instant plus tard, Bill et Charlie se levèrent à l'avant du chapiteau, tous deux vêtus de robes de cérémonie de grandes roses blanches à la boutonnière. Fred siffla comme s'il avait vu passer une jolie fille et des gloussements retentirent parmi les cousines Vélan. Puis, l'assistance devint silencieuse lorsqu'une musique s'éleva provenant, apparemment, des ballons dorés.
« Oh !»
s'exclama Hermione en pivotant sur sa chaise pour regarder l'entrée du chapiteau. Un immense soupir collectif monta de la foule des sorcières et des sorciers quand Monsieur de la Cour et Fleur s'avancèrent dans l'allée centrale, Fleur d'un pas aérien, Monsieur de la Cour d'une démarche bondissante, le visage rayonnant. Fleur portait une robe blanche très simple et semblait émettre autour d'elle un puissant halo de lumière argentée. Alors, qu'habituellement son éclat éclipsait tous les autres, aujourd'hui, en revanche, il embellissait quiconque s'en approchait. Ginny et Gabrielle, toutes deux vêtues de robes dorées, paraissaient encore plus belles qu'à l'ordinaire, et lorsque Fleur fut arrivée à sa hauteur, Bill semblait n'avoir jamais rencontré Fenrir Greyback sur son chemin.
« Mesdames et messieurs !»
dit une voix légèrement chantante. Avec une certaine surprise, Harry vit le même petit sorcier aux cheveux en épi qui avait présidé aux funérailles de Dumbledore. Il se tenait à présent devant Bill et Fleur.
« Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux âmes fidèles, »
poursuivit-il.
« Oh, non, 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 Matière fait très joliment ressortir l'ensemble, »
remarqua la tante Muriel dans un murmure très audible.
« Mais je dois dire que la robe de Ginevra est beaucoup trop décolletée !»
Ginny se retourna en souriant, adressa un clin d'œil à Harry, puis regarda à nouveau devant elle. Harry laissa ses pensées vagabonder bien loin du chapiteau, se rappelant les après-midi où il était seul avec Ginny dans des coins isolés de Poudlard. Ces moments-là lui semblaient appartenir à un passé très lointain. Il lui avait toujours paru trop beau pour être vrai, comme s'il avait volé des heures merveilleuses à la vie d'une autre personne, de quelqu'un qui n'aurait pas eu sur le front une cicatrice en forme d'éclair.
« William, Arthur, voulez-vous prendre pour épouse Fleur Isabelle ?»
Au premier rang, Mrs. Weasley et Madame de la Cour sanglotaient en silence dans de petits mouchoirs de dentelle. Des bruits de trompettes au fond du chapiteau indiquèrent que Hagrid avait également sorti l'un de ses propres mouchoirs de la taille d'une nappe. Hermione tourna vers Harry un visage rayonnant. Elle aussi avait les yeux baignés de larmes.
« Je vous déclare donc unis pour la vie !»
Le sorcier aux cheveux en épi leva haut sa baguette, au-dessus des têtes de Bill et de Fleur, et une pluie d'étoiles d'argent tomba sur eux, tournoyant autour de leur silhouette à présent enlacée. Fred et George entraînèrent les invités dans une salve d'applaudissements en même temps que les ballons dorés éclataient au-dessus d'eux. Des oiseaux de paradis et de minuscules cloches d'or en jaillirent et se mirent à volter ou à flotter dans les airs, ajoutant leurs chants et leurs carillons au vacarme des acclamations.
« Mesdames et messieurs, » s'écria le sorcier aux cheveux en épi, « si vous voulez bien vous lever !»
Tout le monde s'exécuta, la tante Muriel ronchonnant à haute voix, et le sorcier agita sa baguette. Les chaises sur lesquelles les invités s'étaient assis s'envolèrent avec grâce, tandis que les parois de toile du chapiteau disparaissaient. Ils se retrouvèrent sous un dais soutenu par des colonnes dorées, avec une vue magnifique sur le verger et la campagne environnante illuminée de soleil. Puis, un bassin d'or fondu se répandit au centre de la tente pour former une piste de danse à la surface scintillante.
Les chaises, suspendues en l'air, se regroupèrent devant de petites tables aux nappes blanches qui retombèrent sur le sol avec la même grâce, en se disposant d'elles-mêmes autour de la piste. Les musiciens, vêtus de vestes dorées, se dirigèrent alors vers un podium.
« Belle réussite !» dit Ron d'un ton approbateur, pendant que des serveurs surgissaient de tous côtés, certains portant des plateaux d'argent chargés de jus de citrouille, de bière au beurre et de whisky pur feu, d'autres tenant en équilibre des piles vacillantes de tartelettes et de sandwichs.
« Nous devrions aller les féliciter ?»
proposa Hermione, dressée sur la pointe des pieds pour voir l'endroit où Bill et Fleur disparaissaient au centre d'une foule de gens qui leur adressaient des vœux de bonheur.
« On aura bien le temps plus tard !» répondit Ron avec un haussement d'épaule.
Il prit 3 bières au beurre sur un plateau qui passait et entendit une à Harry.
« Tiens, Hermione, attrape! On va trouver une table, pas là, hein, le plus loin possible de Muriel !»
Suivi d'Hermione et de Harry, Ron traversa la piste de danse vide en jetant des regards à droite et à gauche. Harry était sûr qu'il surveillait Crum du coin de l'œil. Lorsqu'ils furent arrivés de l'autre côté, la plupart des tables étaient prises. Celle où il y avait le moins de monde était occupée par Luna, assise seule.
On peut se mettre à côté de toi ?
Demanda Ron.
Bien sûr,
répondit-elle d'un ton joyeux.
Papa est allé donner notre cadeau à Bill et à Fleur.
« Et qu'est-ce que c'est, une provision à vie de Ravgood ?»
dit Ron. Hermione voulut lui lancer un coup de pied sous la table, mais elle atteignit Harry à sa place. La douleur lui fit monter les larmes aux yeux et il perdit le fil de la conversation pendant quelques instants. L'orchestre avait commencé à jouer. Bill et Fleur s'avancèrent sur la piste et ouvrirent le bal sous les applaudissements. Au bout d'un moment, M. Westley entraîna Mme de la Cour, suivie par Mrs. Westley, et le père de Fleur.
Ah, j'aime cette chanson,
dit Luna en se balançant au rythme d'un air de valse. Quelques secondes plus tard, elle se leva et, d'un pas léger, se rendit sur la piste où elle tourna sur elle-même, seule, les yeux fermés, en agitant les bras.
Elle est formidable, non ?
Commenta Ron avec admiration.
Toujours aussi drôle !
Mais son sourire s'effaça aussitôt.
Victor Crum venait de se laisser tomber sur la chaise vide de Luna.
Hermione se trémoussa d'un air ravi, mais cette fois, Crum n'était pas venu lui adresser des compliments. Le visage renfrogné, il demanda
« Qui est cet homme en jaune ?»«
C'est Xenophilius Lovegood, le père d'une de nos amies, » répondit Ron. Son ton belliqueux laissait clairement entendre qu'il n'était pas disposé à se moquer de Xenophilius, en dépit de cette provocation délibérée.
« Viens danser !» lança-t-il à Hermione d'un ton brusque.
Prise au dépourvu, mais finalement contente, elle se leva et ils disparurent tous deux au milieu de la foule grandissante des danseurs.
« Ah ! Ils sont ensemble maintenant ?»
dit Crum, son attention momentanément détournée.
« D'une certaine manière, » répondit Harry. « Et toi, qui es-tu »
interrogea Crum.
« Barney Westley. »
Ils se serrèrent la main.
« Toi, Barney ? Tu connais bien cet homme Lovegood ?»«
Non, je l'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois. Pourquoi ?» Le regard noir au-dessus de son verre, Crum observait Xenophilius qui bavardait avec d'autres sorciers de l'autre côté de la piste de danse.
« Parce que, » dit Crum, « s'il n'était pas un invité de Fleur, je le provoquerais en duel, ici même, à cause de ce signe ignoble qu'il porte autour du cou. »
« Un signe ?» s'étonna Harry en se tournant à son tour vers Xenophilius. L'étrange œil triangulaire brillait sur sa poitrine.
« Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ?»« Grindelwald ! C'est le signe de Grindelwald ! » !»«
Grindelwald ? Le mage noir que Dumbledore a vaincu ?»«
Exactement !»
Les muscles de la mâchoire de Crum remuèrent comme s'il était en train de mâcher, puis il poursuivit.
Grindelwald a tué beaucoup de gens, mon grand-père par exemple. Bien sûr, il n'a jamais été puissant dans ce pays. On disait qu'il avait peur de Dumbledore. Et il avait raison, quand on voit comment il a fini. Mais ça, ça !»
Il montra Xenophilius du doigt.
« Ça, c'est son symbole. J'ai tout de suite reconnu Grindelwald l'a gravé dans un mur à Durmstrang quand il était élève là-bas. Des idiots l'ont recopié dans leurs livres ou sur leurs vêtements, simplement pour choquer. »
se donner l'air impressionnant jusqu'à ce que ceux d'entre nous, qui avions perdu des membres de nos familles à cause de Grindelwald, leur donnent une leçon. »
Crumb fit craquer ses jointures d'un geste menaçant et fusilla Xenophilius du regard. Harry était perplexe. Il semblait tout à fait improbable, incroyable même, que le père de Luna soit un adepte des forces du mal, et d'ailleurs personne d'autre sous le chapiteau ne paraissait avoir reconnu le symbole triangulaire en forme de rune.
« Tu es absolument sûr que c'est bien celui de Grindelwald ?»«
Je ne me trompe pas !» répliqua froidement Crumb. « Je suis passé devant ce signe pendant des années, je le connais bien !»«
Dans ce cas, reprit Harry, il est possible que Xenophilius ne sache pas vraiment ce que représente ce symbole. Les Lovegood sont un peu particuliers. Il l'a peut-être trouvé quelque part et pense que c'est la coupe transversale d'une tête de ronflaque cornue ou quelque chose comme ça.
La coupe transversale de quoi ?
Ben, je ne sais pas vraiment ce que sont les ronflaques cornues, mais apparemment, sa fille et lui essayent d'en attraper pendant leurs vacances. » Harry sentit qu'il s'y prenait mal pour expliquer qui étaient Luna et son père. La voici là-bas, dit-il en montrant Luna qui dansait toujours toute seule, remuant les bras autour de sa tête comme si elle chassait des moucherons.
Pourquoi fait-elle ça?
Demanda Crumb. Elle essaye sans doute de se débarrasser d'un jonchruine, répondit Harry qui reconnaissait les symptômes. Apparemment, Crumb n'arrivait pas à savoir si Harry se moquait de lui ou pas. Il sortit sa baguette magique de sa robe et tapota sa cuisse d'un air menaçant. Des étincelles jaillirent à son extrémité.
« Gregorovitch !» s'écria soudain Harry.
Crumb sursauta, mais Harry était trop excité pour s'en soucier. La mémoire lui était revenue en regardant sa baguette. Il revoyait Ollivander la prendre et l'examiner minutieusement avant le tournoi des trois sorciers.
« Et alors, pourquoi parles-tu de lui ?»
interrogea Crumb d'un ton soupçonneux.
« C'est un fabricant de baguettes. »« Je sais, dit Crumb. »«
Ta baguette vient de chez lui. Voilà pourquoi je pensais au Quidditch. » Crumb paraissait de plus en plus méfiant.
« Comment sais-tu que Gregorovitch a fabriqué ma baguette ?»«
Je l'ai lu quelque part, je crois, » répondit Harry. « Dans un magazine de fans, » ajouta-t-il, improvisant comme il pouvait.
Crumb sembla se calmer.
« Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais parlé de ma baguette à mes fans, » dit-il.
« Et comment va Grigorovitch ces temps-ci ? »
Crumb eut l'air déconcerté.
« Il a pris sa retraite, et il y a quelques années. J'ai été un des derniers à acheter une baguette chez lui. Ce sont les meilleurs, mais je sais que vous, les Britanniques, vous tenez beaucoup à Ollivander. »
Harry ne répondit pas. Il fit semblant de regarder les danseurs, comme Crumb, mais il réfléchissait. Ainsi donc, Voldemort voulait retrouver un fabricant de baguettes réputé. Harry n'avait pas besoin d'en chercher très loin la raison. C'était sûrement à cause de ce que sa baguette avait fait la nuit où Voldemort le poursuivait en plein ciel. La baguette en bois de houx, avec une plume de phénix, avait vaincu la baguette empruntée. Un phénomène qu'Ollivander n'avait pas prévu ni compris. Gregorovitch en saurait-il plus ? Était-il véritablement un plus grand expert qu'Ollivander ? Connaissait-il sur les baguettes magiques des secrets ignorés d'Ollivander ?
« Cette fille est très jolie !» remarqua Crumb,
ramenant Harry à l'instant présent. Crumb montrait Ginny, qui venait de rejoindre Luna.
« Elle est aussi de ta famille ?»
« Oui, » répondit Harry soudain irrité,
« et elle a quelqu'un dans sa vie, du genre très jaloux, un grand type costaud. Il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. »
Crumb poussa un grognement.
« À quoi sert d'être un joueur de Quidditch international si toutes les jolies filles sont déjà prises ?»
Il vida sa coupe, se leva et s'éloigna à grands pas, pendant que Harry prenait un sandwich sur le plateau d'un serveur qui passait devant lui. Harry contourna la piste de danse bondée. Il voulait retrouver Ron, lui parler de Gregorovitch, mais Ron dansait avec Hermione au milieu de la foule. Harry s'adossa contre l'une des colonnes de doré et regarda Ginny qui dansait à présent avec Lee Jordan, l'ami de Fred et de George. Il s'efforça de chasser son amertume en songeant à la promesse qu'il avait faite à Ron. Jamais encore, il n'avait assisté à un mariage. Il ne pouvait donc pas savoir en quoi les célébrations des sorciers différaient de celles des moldus, mais il était quasiment sûr que, chez ces derniers, on ne voyait pas de pièces montées, ornées de deux petits phénix qui s'envolaient lorsqu'on coupait le gâteau, ni de bouteilles de champagne passant toutes seules parmi la foule des invités. À mesure que le soir tombait, et que les papillons de nuit commençaient à s'engouffrer sous le dais, éclairés à présent par des lanternes flottantes, les réjouissances devenaient de plus en plus débridées. Fred et Georges avaient disparu depuis longtemps dans l'obscurité en compagnie de deux cousines de Fleur. Charlie, Hagrid et un petit sorcier trapu coiffé d'un canotier violet chantaient « Au dos le héros » dans un coin. Se faufilant dans la foule, pour échapper à un oncle de Ron manifestement ivre qui se demandait s'il n'était pas son fils, Harry aperçut un vieux sorcier assis seul à une table. Son nuage de cheveux blancs le faisait ressembler à une aigrette de pissenlit, et il était coiffé d'un fez mangé au mythe. Son visage lui paraissait vaguement familier. Fouillant dans sa mémoire, Harry se rappela soudain qu'il s'agissait d'Elphias Dodge, membre de l'ordre du Phénix et auteur de la nécrologie de Dumbledore. Il s'approcha de lui. « Puis-je m'asseoir ?»«
Bien sûr, » répondit Dodge.
Il avait une voix sifflante, plutôt aiguë. Harry se pencha en avant.
« Monsieur Dodge, je suis Harry Potter. »
Dodge étouffa une exclamation.
« Cher ami, Arthur m'a dit que vous étiez déguisé. Oh, je suis si heureux, si honoré !»
Avec une émotion ravie, Dodge versa précipitamment à Harry une coupe de champagne.
« J'ai pensé à vous écrire, » murmura-t-il. « Après Dumbledore, le choc, et pour vous, je suis sûr que... »
Ses yeux minuscules se remplirent soudain de larmes. « J'ai lu la nécrologie que vous avez écrite pour la Gazette du Sorcier, » dit Harry. « Je ne savais pas que vous connaissiez si bien le professeur Dumbledore. »«
Aussi bien que n'importe qui d'autre, »
répondit Dodge en s'essuyant les yeux avec une serviette.
« En tout cas, je suis celui qui l'a connu le plus longtemps, si l'on excepte à Belfort. » Et, pour des raisons que j'ignore, les gens ne tiennent jamais compte d'Abelfort.
Puisqu'on parle de la Gazette du Sorcier, je ne sais pas, Monsieur Dodge, si vous avez vu...
Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Elphias, cher ami.
Elphias, je ne sais pas si vous avez vu l'interview qu'a donnée Rita Skeeter au sujet de Dumbledore. La fureur colora soudain le visage de Dodge.
Oh oui, Harry, je l'ai vu. Cette femme, ou plutôt ce vautour, devrait-on dire, m'a littéralement harcelé pour que j'accepte de lui parler. J'ai honte de vous avouer que je suis devenu assez discourtois. Je l'ai traité de vieille truite fouineuse, ce qui s'est traduit, comme vous l'avez lu, par des calomnies concernant ma santé mentale.
En tout cas... « Dans cette interview, poursuivit Harry, Rita Skeeter insinue que le professeur Dumbledore aurait pratiqué la magie noire quand il était jeune. »«
N'en croyez pas un mot, » répliqua aussitôt Dodge. « Pas un mot, Harry. Ne laissez pas ternir la mémoire d'Albus Dumbledore. »
Harry observa le visage grave, douloureux de Dodge et ne se sentit pas rassuré pour autant, mais plutôt contrarié. Dodge pensait-il donc que c'était si facile, que Harry pouvait simplement choisir de ne pas croire ce qu'il lisait? Ne comprenait-il pas le besoin qu'il éprouvait d'être sûr, de tout savoir? Dodge se doutait peut-être de ce que ressentait Harry, car il parut inquiet et se hâta d'ajouter
« Harry, Rita Skeeter est une horrible !»
Mais il fut interrompu par un caquettement suraigu.
Non, Rita Skeeter, oh, je l'adore, je lis toujours ses articles. »
Harry et Dodge levèrent la tête et virent devant eux la tante Muriel, des plumes dansant sur son chapeau, une coupe de champagne à la main.
« Figurez-vous qu'elle a écrit un livre sur Dumbledore !»«
Bonjour Muriel, » dit Dodge.
« Oui, nous parlions justement. »« Toi, là, donne-moi ta chaise, j'ai 107 ans, non !»
Un autre cousin Westley, les cheveux roux, l'air effaré, bondit aussitôt de sa chaise que la tante Muriel fit pivoter avec une force surprenante avant de s'y laisser tomber lourdement entre Dodge et Harry.
« Rebonjour, Barry. Oh, je ne sais quoi, » dit-elle à Harry. « Alors, qu'est-ce que vous disiez à propos de Rita Skeeter ? Oh non, 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 Elfias, vous saviez qu'elle a écrit une biographie de Dumbledore ? J'ai hâte de la lire. Oh non, 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 il faut que je pense à la commander chez Fleury et Bott. »
Dodge eut un air pincé, solennel. Mais la tante Muriel vida sa coupe et claqua ses doigts osseux vers un serveur qui passait par là pour qu'il lui en apporte une autre. Après avoir bu une nouvelle et longue gorgée de champagne, elle laissa échapper un rot et poursuivit.
« Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez l'air de deux grenouilles empaillées. Oh non, 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 non. Avant qu'ils deviennent si respectables et respectés, et toutes ces fadaises, il y avait de sacrées rumeurs qui circulaient sur Albus. »
« Des insinuations d'ignorants !» répliqua Dodge, son teint reprenant une couleur de radis.
« Oh, non, non, je savais que vous diriez ça, Elfias !»
gloussa la tante Muriel.
« J'ai remarqué comment vous avez glissé sur les zones d'ombre dans votre nécrologie. »«
Je suis navré que vous ayez cette opinion !» répondit Dodge d'un ton encore plus froid. « Je puis vous assurer que j'ai parlé avec mon cœur en écrivant cet article. »
Oh, non, 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 non. Oh, tout le monde sait que vous aviez une véritable vénération pour Dumbledore. J'imagine que vous le considérez toujours comme un saint, même s'il apparaît et qu'il s'est débarrassé de sa sœur Crackmoll. Oh, non, 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 non.
Muriel, s'exclama Dodge. Une sensation glacée qui n'avait rien à voir avec le champagne se répandit dans la poitrine de Harry. Qu'est-ce que vous entendez par là? Demanda-t-il à Muriel. Qui a dit que sa sœur était une Crackmoll? Je pensais qu'elle était malade.
« Eh bien, vous pensiez de travers, Barry !»
lança la tante Muriel, visiblement enchantée de l'effet qu'elle avait produit.
« Non, d'ailleurs, comment auriez-vous pu le savoir, hein? Ça s'est passé à un moment où vous n'étiez même pas à l'état de projet, mon jeune ami. Et la vérité, oh non, 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 c'est que nous qui étions là à l'époque n'avons jamais su ce qui était vraiment arrivé. Voilà pourquoi je brûle de découvrir les révélations de Skeeter. Dumbledore a si longtemps gardé le silence sur sa sœur.
Faux, protesta Dodge de sa voix sifflante. Absolument faux.
Il ne m'a jamais dit que sa sœur était une Crackmoll, lança Harry sans y penser, la sensation glacée persistante en lui.
Et pourquoi donc vous l'aurait-il dit?
Queena Muriel qui se balança un peu sur sa chaise dans un effort pour voir plus nettement Harry.
« La raison pour laquelle Albus ne parlait jamais d'Ariana, » commença Elfias d'une voix tendue par l'émotion, « me paraît tout à fait évidente. Il a été si bouleversé par sa mort. »«
Pourquoi personne ne l'a jamais vu, Elfias ?»
s'écria la tante Muriel.
« Pourquoi une bonne moitié d'entre nous, oh non, 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 n'ont-ils jamais soupçonné son existence avant qu'on sorte son cercueil de la maison et qu'on célèbre ses funérailles? Où était donc le très saint Albus pendant qu'Ariana se trouvait enfermée dans la cave? Il brillait de tous ses feux à Poudlard et peu importe ce qui se passait dans sa propre maison. »
« Que voulez-vous dire par enfermée dans la cave ? » interrogea Harry. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Dodge semblait anéanti. La tante Muriel poussa un nouveau caquettement et répondit à Harry.
« Ah, oh non, 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 non. La mère de Dumbledore était une femme terrifiante, tout simplement terrifiante, née dans une famille moldue, bien qu'elle ait, paraît-il, prétendu le contraire. Elle n'a jamais prétendu cela. Kendra était une femme remarquable, » murmura Dodge, l'air accablé.
Mais la tante Muriel ne lui prêta aucune attention.
Fière! Oh non, 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 non. Et très dominatrice! Le genre de sorcière qui aurait été mortifiée à l'idée de donner naissance à une Crackmoll!
Ariana n'était pas une Crackmoll! Affirma Dodge de sa voix sifflante.
Ah ben c'est ce que vous dites, Elfias! Oh non, non, non! Mais expliquez-moi, dans ce cas, pourquoi elle n'est jamais allée à Poudlard?
Répliqua la tante Muriel. Elle se tourna à nouveau vers Harry.
« De notre temps, hein? Oui, oui, non, non, non. Quand on avait un Crackmoll dans la famille, on n'en parlait pas.
Mais de là à séquestrer une petite fille, oh, dans la maison, en faisant comme si elle n'existait pas. Ah oh, non, 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 non.
Je vous dis que ça ne s'est pas passé ainsi, protesta Dodge.
Mais la tante Muriel poursuivit sur sa lancée, comme un rouleau compresseur, s'adressant toujours à Harry.
Les craquemolles, oh, étaient habituellement envoyés dans les écoles de moldus, et on les encourageait à intégrer leur communauté. C'était beaucoup plus charitable, oh, oui, 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 non, 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 que d'essayer de leur trouver une place dans le monde des sorciers, où ils auraient toujours été relégués au second rang. Mais, naturellement, Kendra Dumbledore n'aurait jamais songé à laisser sa fille fréquenter une école de moldus. Ah, non, 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 non.
Ariana était fragile, déclara Dodge en désespoir de cause. Sa santé a toujours été trop précaire pour lui permettre de...
Pour lui permettre de quitter la maison, couina Muriel. Et pourtant, oh non, 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 on ne l'a jamais envoyée à Sainte-Mangouste. Et on n'a jamais appelé de guérisseur à son chevet.
Muriel, voyons, comment pouvez-vous savoir si...
Pour votre information, Elphias, mon cousin Lancelot, oh non, 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 était guérisseur à Sainte-Mangouste à l'époque, et il a raconté à ma famille, en toute confidentialité, qu'on n'avait jamais vu Ariana là-bas. Très louche, hein, pensait Lancelot.
Dodge paraissait sur le point d'éclater en sanglots. La tante Muriel, qui semblait s'amuser beaucoup, claqua des doigts pour obtenir une nouvelle coupe de champagne. Hébété, Harry repensa à la façon dont les Dursley l'avaient enfermé bouclé dans un placard, caché à la vue des autres pour avoir commis le seul crime d'être un sorcier. La sœur de Dumbledore avait-elle subi le même traitement pour la raison inverse? L'avait-on séquestrée parce qu'elle n'était pas suffisamment douée pour la magie? Et Dumbledore l'avait-il véritablement abandonnée à son sort pendant que lui-même allait à Poudlard, où il se montrait brillant et talentueux?
Non, 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 si Kendra n'était pas morte la première, reprit Muriel, j'aurais dit que c'était elle qui en avait fini avec Ariana.
Comment osez-vous, Muriel?
Gémit Dodge.
Une mère tuer sa propre fille, réfléchissez à ce que vous dites.
Pourquoi pas? Non, 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 si cette même mère a été capable d'emprisonner sa fille pendant des années entières,
répliqua la tante Muriel avec un haussement d'épaule.
Mais enfin, comme je l'ai déjà dit, ça ne cadre pas, car Kendra est morte avant Ariana. De quoi? Oh, bah, non, 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 personne ne semble pouvoir l'affirmer avec certitude. Oh, il ne fait aucun doute qu'Ariana l'a assassinée,
lança Dodge, essayant courageusement de se montrer ironique.
Pourquoi pas, pendant qu'on y est? Ah oui, ah, peut-être qu'Ariana, dans une tentative désespérée pour conquérir sa liberté, a tué Kendra au cours de la bagarre,
suggéra la tante Muriel d'un air songeur.
Vous pouvez hocher la tête autant que vous voulez, Elphias. Vous étiez à l'enterrement d'Ariana, non? En effet, j'y étais,
répondit Dodge, les lèvres tremblantes.
Et je ne pense pas avoir jamais vécu un moment de plus grande tristesse. Albus avait le cœur brisé. Ah! Il n'y a pas eu que son cœur! À Belfort, n'a-t-il pas aussi brisé le nez d'Albus en plein milieu de la cérémonie? Ah non, 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 non!
Si Dodge avait pu paraître horrifié auparavant, ce n'était rien comparé à l'expression qu'il affichait à présent. Il aurait sans doute eu la même tête si Muriel lui avait enfoncé un poignard dans le ventre. Elle laissa échapper un gloussement sonore, puis but à nouveau du champagne qui dégoulina sur son menton.
« Comment osez-vous? Comment osez-vous ?»
croassa Dodge.
« Ma mère était amie avec la vieille Bathilda Tour-de-Sac !»
reprit la tante Muriel d'un air joyeux.
« Bathilda a raconté toute l'histoire à maman. Oh, non, non, non. Pendant que j'écoutais à la porte, une bagarre devant un cercueil. Oh, non, 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 non. D'après le récit de Bathilda, Belfort a hurlé que c'était la faute d'Albus si Ariana était morte. Et puis, il lui a donné un coup de poing dans la figure. Oh, ah, là, 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 là. À en croire, Bathilda,
Albus n'a même pas cherché à se défendre. Ce qui est étrange, hein, en soi. Car s'il s'était battu en duel avec lui, il aurait eu aucun mal à écraser à Belfort avec les deux mains liées derrière le dos. Oh non, 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 non. Oh non, non.
Muriel avala encore un peu de champagne. L'évocation de ses anciens scandales semblait la réjouir autant qu'elle horrifiait Dodge. Harry ne savait plus ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait croire. Il voulait la vérité, mais Dodge ne trouvait rien d'autre à faire que de rester assis là, à chevrotter d'une voix faible, car Ariana avait été malade. Harry avait peine à imaginer que Dumbledore ne soit pas intervenu si une telle cruauté avait été véritablement exercée sous son toit. Pourtant, il était indiscutable qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire.
Et j'ajouterai encore un détail,
poursuivit Muriel, qui éloigna la coupe de ses lèvres en laissant échapper un léger hoquet.
Je crois que Bathilda a tout raconté à Rita Skeeter. Ses allusions dans l'interview de Skeeter à une source bien informée et proche de Dumbledore. Dieu sait que Bathilda était présente d'un bout à l'autre de cette histoire d'Ariana. Tout cela cadre, ça cadre, ça cadre parfaitement. Ah non, 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 non.
Bathilda n'aurait jamais parlé à Rita Skeeter,
murmura Dodge. Bathilda Tour-de-Sac, répéta Harry, l'auteur d'Histoire de la magie. Ce nom était imprimé sur la couverture de l'un de ses livres de classe, mais il fallait admettre que ce n'était pas celui auquel il avait accordé le plus d'attention.
« Oui, » répondit Dodge,
s'accrochant à la question de Harry comme un homme qui se noie à une bouée.
« Une historienne de la magie, particulièrement douée, et une vieille amie d'Albus. »
Complètement gaga depuis quelque temps, d'après ce qu'on m'a dit,
ajouta joyeusement la tante Muriel.
Si c'est vrai, c'est encore plus déshonorant de la part de Skeeter d'en avoir profité,
trancha Dodge.
Et on ne peut accorder aucun crédit à ce que Bathilda a pu déclarer.
Non, 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 non. Il existe des moyens de ramener les souvenirs à la surface. Et je suis persuadé que Rita Skeeter les connaît tous,
déclara la tante Muriel.
Mais même si Bathilda a totalement perdu la boule, je suis sûr qu'elle a toujours de vieilles photos, peut-être même des lettres. Hein. Oh, non, non, non. Et elle a fréquenté les Dumbledore pendant des années. Ça vaut bien un petit voyage à Godric's Hollow, me semble-t-il.
Harry, qui avait bu une gorgée de bière au beurre, s'étrangla et se mit à tousser. Tandis que Dodge lui donnait des tapes dans le dos, il regarda la tante Muriel à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. Lorsqu'il eut retrouvé le contrôle de sa voix, il demanda « Bathilda Tour-de-Sac habite à Godric's Hollow ?»«
Ah oui, elle a toujours vécu là !» Les Dumbledore sont venus s'y installer après l'arrestation de Perceval. Et ils étaient voisins.
Les Dumbledore vivaient à Godric's Hollow?
Non, oui! Barry, qu'est-ce que je viens de dire, enfin?
Répliqua la tante Muriel avec mauvaise humeur. Harry se sentait épuisé, vidé. Pas une seule fois en 6 ans, Dumbledore ne lui avait dit qu'ils avaient tous les deux vécu et perdu des êtres chers à Godric's Hollow. Pourquoi? Lily et James étaient-ils enterrés près de la mère et de la sœur de Dumbledore? Dumbledore était-il allé se recueillir sur leur tombe? Était-il passé à cette occasion devant celle de Lily et de James? Il n'en avait jamais parlé à Harry. Ne s'était jamais soucié de le lui dire. Pourquoi était-ce si important? Harry n'aurait su l'expliquer, même pas à lui-même. Pourtant, il ressentait comme l'équivalent d'un mensonge le fait de ne pas lui avoir révélé qu'ils avaient en commun cet endroit et ces deuils. Les yeux dans le vague, il remarquait à peine ce qui se passait tout autour de lui et ne vit pas qu'Hermione était sortie de la foule des danseurs jusqu'au moment où elle tira une chaise pour s'asseoir auprès de lui.
« Je n'en peux plus danser, » dit-elle d'une voix haletante.
Elle ôta une de ses chaussures et se massa la plante du pied.
Ron est allé chercher d'autres bières au beurre. C'est bizarre. Je viens de voir Victor quitter le père de Luna d'un air furieux. On dirait qu'ils se sont disputés.
Elle observa Harry et baissa la voix.
Harry, tu te sens bien ?
Il ne savait par où commencer. Mais cela n'avait pas d'importance, car au même instant, une longue forme argentée tomba à travers le dais au-dessus de la piste. Gracieux et luisant, un lynx atterrit avec légèreté au milieu des danseurs surpris. Des têtes se tournèrent, tandis que ceux qui se trouvaient le plus près de lui se figeaient en plein mouvement dans une pose absurde. Le patronus ouvrit alors largement sa gueule et parla avec la voix lente, forte, profonde de Kingsley Shacklebolt.
« Le ministère est tombé ! Scrimgeour est mort ! Ils arrivent !»